Soyez bienvenue à International, où nous sommes heureux de vous accueillir. Les religions ont-elles pris trop de place dans nos sociétés? En France, en tout cas, la question semblait réglée depuis un siècle avec la séparation de l'Église et de l'État. En gros, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Ça peut être le début d'une définition de la laïcité. Un observatoire existe, il a été au cœur d'une polémique récente, observatoire de la laïcité, à cause d'une pétition qui a été contestée par un certain nombre de voix en France. Nous allons recevoir dans un instant le président de l'observatoire de la laïcité, Jean-Luc Bianco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons, avec Sophie Malibeau de RFI et avec Philippe Ricard du Monde, bien sûr, vous interroger sur cette définition de la laïcité. Est-ce un phénomène franco-français? Comment les autres pays règlent t-il cette question? Peut-être tout d'abord, petit rappel de l'actualité de ces derniers jours.
Le pavé dans la mare a été jeté depuis le sommet de l'État. C'est Manuel Valls, lors d'une soirée des Amis du CRIF, le 18 janvier dernier, qui sonne la charge contre l'Observatoire de la laïcité, accusé de dénaturer sa mission. Il reproche au président de l'Observatoire, Jean-Louis Bianco, d'avoir signé une tribune appelant à l'unité après les attentats de novembre, réunissant de très nombreuses associations et également signé par les représentants du collectif contre l'islamophobie en France, jugé peu fréquentable par le Premier ministre. Une critique peu appréciée par Jean-Louis Bianco.
S'il a des choses à me dire, il peut me les dire à tout moment. Il ne l'a jamais fait jusqu'ici, depuis 3 ans que l'Observatoire existe et depuis 2 ans qu'il est Premier ministre. La méthode du Premier ministre n'est pas convenable, et parce que sur le fond, la conception que défend l'Observatoire est une conception de la laïcité largement partagée.
Une conception qui tient pour l'essentiel à la défense de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Pour Jean-Louis Bianco, cette loi suffirait à assurer l'essentiel de la laïcité dans l'espace public. Il s'en remet aux récentes déclarations du ministre de l'Intérieur, chargé des cultes, Bernard Cazeneuve, pour qui la laïcité n'a pas à se durcir, mais à s'affirmer. Le chef du gouvernement, lui, à défaut de durcir la laïcité, semble en tout cas l'affirmer de manière très offensive, s'alignant sur la philosophe Elisabeth Badinter.
Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe, qui a été, si vous voulez, pendant pas mal d'années, le stop absolu, l'interdiction de parler et presque la suspicion sur la laïcité. Il n'y a pas de raison de se taire et il n'y a pas de raison de changer de discours.
3 ans de pédagogie détruits par une interview. Le tweet du rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité est lapidaire. La fracture est désormais évidente entre les tenants d'une laïcité garante de la liberté de culte et ceux qui y voient un outil pour contrer le communautarisme. Et même si Manuel Valls et Jean-Louis Bianco ont enterré l'âge de guerre lors d'un entretien la semaine passée, le débat est loin d'être clos.
Débat que nous allons mener dans cette émission. C'est une affaire franco-française, cette affaire de la laïcité.
Le mot laïcité est très dur à traduire. Il y a peu de pays qui reconnaissent la laïcité. Et donc, c'est vrai que c'est le produit de notre histoire.
On traduit sécularisation, en gros, c'est ça?
On traduit par sécularisation, mais c'est plus que ça. Ouais. Dans l'histoire de France, c'est le combat entre l'État, puis la République et l'Église catholique pour l'enseignement. Donc, c'est une bataille qui dure pendant plus d'un siècle, jusqu'à cette fameuse loi de 1905, qui établit un équilibre en disant qu'il y a une liberté de culte, mais que la religion ne doit pas prédominer sur la loi de l'État.
Alors ça, on va y revenir. Dans cette affaire que nous venons de rappeler, il y a des signatures que vous n'auriez pas dû accueillir, notamment associations musulmanes réputées et radicalisées.
Alors je suis stupéfait et indigné de ces critiques. Le texte qui a été préparé après le 13 novembre. Juste après.
Après les attentats
de Paris. Où on voit bien que l'un des objectifs de Daesh, ou de nous faire peur, c'est de nous diviser. Et ce texte dit « Nous sommes unis contre la barbarie. Nous sommes unis contre le terrorisme. » Il est fait par des jeunes formidables de l'association Coexister qui passent leur temps à prôner le respect, la laïcité, la tolérance. Il est signé par le secrétaire général de la CFDT, par le grand rabbin Haïm Korsia, par le secrétaire général de l'enseignement catholique, par le président de l'Église réformée de France. Non mais attendez, moi je ne regarde pas qui sont les signatures. Il y a 80 signatures, je vois ces gens-là, je vois le texte qui me convient. Moi, j'engage ma responsabilité de Jean-Louis Bianco avec ce que je suis comme homme libre sur ce texte. Et je suis fier de signer un texte qui rassemble très largement, notamment des juifs et des musulmans. Est-ce qu'il y a des gens pas fréquentables? Je n'en sais rien. Moi, ce que je réponds, s'il y a des gens qui ne respectent pas dans leurs paroles ou dans leur comportement les lois de la République, qu'on les poursuive devant les tribunaux, mais qu'on ne reste pas à des accusations vagues où ils ont dit ou fait des choses qui doivent être poursuivis, et ils doivent être poursuivis, ou bien ils ne l'ont pas fait. Et moi, je considère que des gens qui ne plaisent pas à certains accepte de dire « nous sommes contre la barbarie, contre le terrorisme » est un progrès.
Finalement, quand Manuel Valls, le Premier ministre, vous reproche de dénaturer la laïcité, à votre avis, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Qu'est-ce que vous avez compris ?
Je me le demande.
Vous l'avez rencontré ?
Je me le demande. Je l'ai rencontré, nous sommes expliqués sur la laïcité très amicalement, je peux dire, et nous n'avons pas constaté dans cet entretien de divergence profonde. Je crois qu'il n'y a qu'une conception de la laïcité. Plutôt, on est dans un état de droit, la loi s'applique, et cette loi définit ce qu'est la laïcité. On pourrait souhaiter qu'elle soit différente, c'est un sujet de débat. Mais la laïcité est conçue comme liberté de croire ou de ne pas croire, de changer de religion, de pratiquer sa religion et de manifester ses convictions, même religieuses, dans l'espace public. Simplement. C'est la Déclaration des droits de l'homme, pardon. Comme la neutralité absolue de l'État et comme le fait que nos différences sont rassemblées dans la citoyenneté, c'est une définition avec laquelle je pense tout le monde doit être d'accord sur ce qu'est le droit aujourd'hui. Après, on peut vouloir le faire évoluer.
Vous avez le sentiment que Manuel Valls est d'accord avec cette définition que vous venez de poser de la laïcité ?
Je le pense, mais enfin, c'est à lui de s'exprimer s'il le souhaite.
Il vous a donné des amendements un petit peu ? Il vous trouve trop indulgent ?
Écoutez, je ne vais pas raconter mon entretien avec le Premier ministre. Nous avons parlé de laïcité dans les termes que je viens de vous dire et je n'ai pas constaté de désaccord du Premier ministre avec ce que je viens de vous dire.
Vous vous en tenez à cette loi de 1905 qui, on le sait, a connu beaucoup d'amendements.
Oui.
Par exemple, ne serait-ce que l'abattage rituel, elle est de plus en plus modifiée, cette loi. Jusqu'où, finalement, les tenants de la laïcité assez durs ont peur que, finalement, cette loi soit complètement
déviée. Non, elle n'est pas de plus en plus modifiée. Elle n'a pas été modifiée depuis longtemps. Et comme le disait Bernard Cazeneuve, c'était cité dans le reportage que vous avez vu, il faut l'appliquer, je dirais, avec fermeté. C'est-à-dire que la loi pose des limites à l'expression des convictions religieuses et une limite absolue qui est que le religieux ne doit pas prendre le pas sur le démocratique, sur le républicain. Il faut faire respecter des frontières. Les gens ont besoin de frontières pour savoir ce qui est permis et ce qui est interdit. Mais il n'y a pas besoin de modifier la loi pour faire respecter des frontières qui permettent de vivre ensemble.
Alors on parle peut-être de façon un peu large des religions, posant la question clairement. Est-ce que c'est avec l'islam actuellement que la France a des difficultés relationnelles ?
Je crois que c'est un peu dangereux de parler de l'islam comme un bloc. Ce qui est vrai.
Pardon, je précise ma question.
Non, mais...
Nous sommes à nouveau diffusés dans le monde entier. Il n'y a pas de difficulté avec la religion catholique ou avec d'autres expressions religieuses.
Il n'y a pas de difficulté avec la religion catholique. Enfin bon, je ne vais pas revenir sur le mariage pour tous. Mais c'est vrai que ce qui pose problème dans le débat français actuel, c'est en effet le fait que des fous furieux se revendiquant d'un islam complètement dévoyé sont des terroristes. Et d'autre part, le fait que l'islam, les musulmans n'appartiennent pas à la culture dominante, qui est plutôt chrétienne, certains disent judéo-chrétienne. D'où une surprise, un choc, une gêne, quand cette religion s'exprime, se montre beaucoup plus dans l'espace public, notamment à travers le foulard, qui est beaucoup plus porté aujourd'hui qu'hier, par des jeunes filles, par des jeunes femmes. Donc, c'est normal, sociologiquement, que ça pose des questions, ça pose des interrogations. Et comme on a peur, en plus, on a peur du terrorisme, on a peur des étrangers, alors ça entraîne, bien sûr, à juste titre, ça entraîne un sentiment de doute, je finis cette réponse qu'elle est importante, de doute, d'interrogation, de gêne. À quoi nous répondons, à l'Observatoire, je réponds que ce qui compte, c'est les comportements. Est-ce qu'on a des comportements prosélytes, agressifs, ils doivent être sanctionnés. Sinon, ça fait partie d'une liberté à laquelle, je crois que nous sommes tous attachés, la liberté d'expression de nos convictions.
Pendant un moment, vous avez dit « la France n'a pas de problème avec la laïcité ».
Non, je n'ai jamais dit cela. Vous êtes influencé par la propagande pernicieuse qui vise l'Observatoire. Excusez-moi. La question, c'était « est-ce que la laïcité, ça marche ?» Je réponds « la France n'a pas de problème avec sa laïcité ». C'est précisément notre débat. La loi de 1905, appliquée avec fermeté et intelligence, suffit. Dans la phrase suivante, je disais « attention à la pression des dérives communautaristes ». Et je voudrais compléter ma réponse.
Est-ce que ce débat n'est pas salutaire, malgré tout ?
Je voudrais compléter ma réponse, parce qu'on a parlé de cette polémique. Moi, j'ai été très impressionné de voir que plus de 150 universitaires et chercheurs ont salué notre travail en disant « l'Observatoire, Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadenne ont su, durant tous ces événements, les événements qui ont frappé la France, maintenir contre vent et marée cet organisme dans sa juste fonction ». Fournir des informations objectives remontant du terrain, prévenir et souligner les dérives contraires à la laïcité, laisser s'exprimer les différentes tendances des mouvements de promotion de la laïcité, permettre un dialogue constructif avec les représentants des grandes religions, enfin rappeler inlassablement les textes en vigueur. C'est le jugement que portent des chercheurs qui n'ont jamais signé une pétition pareille. Et pour moi, c'est la validation de notre travail et le fait que s'ils ont cru se mobiliser, c'est qu'ils pensaient peut-être qu'il y avait des dangers qui pouvaient frapper la laïcité si on s'y attaquait, en dehors de celle qui est celle de la loi, qui est la seule que nous devons appliquer.
pour vous, la laïcité, enfin, votre observatoire en l'occurrence, ne peut pas être utilisé pour combattre des dérives communautaristes. Enfin, c'est,
si,
pour certains, si, ça devrait être le cas.
Mais... Si, l'observatoire, les dérives communautaristes, c'est d'abord une question du ministère de l'Intérieur, de voir ce qui se passe réellement. Mais nous, on a besoin des informations qu'ils nous donnent. Et nous, notre devoir est de dire, attention, il y a telle et telle chose qui sont inacceptables. Je prends des exemples qui sont dans l'actualité. Il est évidemment inacceptable qu'un homme conducteur de bus ou de métro, de bus, refuse de s'asseoir sur le siège parce qu'une femme l'occupait avant. Ça mérite une sanction.
On pense à la RATP, le système de transport à Paris. Hein.
Ça mérite une sanction. Il est inacceptable que quelqu'un interrompe son service, que ce soit dans l'entreprise ou dans le service public, pour faire sa prière. Il est inacceptable que quelqu'un refuse de serrer la main d'une femme, et ça doit être sanctionné. Il est inacceptable que quelqu'un refuse d'être contrôlé par une femme dans le métro, dans le train, et ça doit être sanctionné. Donc, nous sommes là pour rappeler les frontières et les limites que des pressions religieuses, même pas forcément communautaristes, n'ont pas leur place dans le fonctionnement normal des entreprises et de la société.
Peut-être pour être plus précis, il sert à quoi l'observatoire ? Parce que, au fond, ce que vous nous dites, on l'entend bien, mais les pouvoirs publics ne sont nullement tenus de suivre vos recommandations.
Il sert comme tous les organismes consultatifs, comme la Commission consultative des droits de l'homme, qui joue un rôle très important, avec qui nous travaillons étroitement, comme la Commission informatique et liberté, comme le Haut Commissariat à l'égalité entre hommes et femmes, avec lesquels nous travaillons également. Ce sont des organismes qui comportent des représentants des ministères, des élus de la nation et des personnalités qualifiées. Et donc cette diversité fait que, avec nos histoires différentes, ces pluripartisans, nos sensibilités différentes, nous donnons des informations, nous donnons des faits, nous donnons l'application des règles. Après, ça sert à chaque citoyen. Pour nous, c'est d'abord les citoyens. Ça sert aux pouvoirs publics, mais qui sont libres. Nous sommes consultatifs, nous ne sommes pas un juge, de suivre ou de ne pas suivre. Et je dois constater qu'à l'éducation nationale en particulier, l'enseignement moral et civique, la formation à la laïcité, l'enseignement laïque du fait religieux, la charte de la laïcité, tout ça sont des avancées que nous avions souhaitées et soutenues.
On aimerait savoir comment, depuis un an, entre vous, dans vos débats, comment vous avez évolué. Est-ce que vous êtes toujours sur la même ligne ou est-ce qu'il y a une sorte de mobilisation accrue aujourd'hui pour défendre ces principes de laïcité, l'école notamment ?
Nous avons eu très très vite le diagnostic que j'évoquais tout à l'heure en disant la loi, toute la loi, rien que la loi, pas d'adjectif à laïcité, ouverte, fermée, pas de théorie des accommodements raisonnables qui en effet... est respectable dans la tradition du Québec, mais n'est pas notre histoire ni notre loi. Et dès le départ, nous avons dit, ce que je vous dis là, il faut mettre des frontières claires et précises sur des cas concrets. Nous avons adopté, au bout d'un an, une note d'orientation à l'unanimité. Et la majorité de nos avis, de nos recommandations, de nos rapports ont été établis à l'unanimité. Le travail le plus utile, peut-être, que nous ayons fait par rapport à vos questions, c'est des guides. Où on dit à chaque fois, que dit le droit ? Que dit la jurisprudence et qu'est-ce qu'on fait dans les cas difficiles ? Un peu ce que je vous expliquais sur quelques cas flagrants. Donc il y en a un pour les collectivités locales, à la fois pour les agents et pour les élus. Il y en a un pour l'entreprise privée, il y en a un pour les associations et nous sommes en train d'en travailler un sur l'hôpital. Toujours rappeler le droit et face à des situations parfois difficiles, difficiles à gérer parce qu'il y a des pressions, parce qu'il y a de la tension, qu'est-ce qui nous paraît être les meilleures pratiques ?
Peut-être dans la difficulté qu'il y a actuellement autour de cette question, il y a aussi le phénomène des migrants, vagues migratoires. Généralement, les arrivants ou les candidats à l'installation sont également de religion musulmane. Est-ce que ça ne nourrit pas cette inquiétude ressent dans les opinions publiques ?
C'est certain. Il y a à la fois le fait qu'encore une fois, des terroristes se réclament de l'islam. Mm-hmm. Il y a en effet des pratiques qui, dans certains cas, ne sont pas acceptables ou des paroles ou des pratiques parce qu'elles empiètent sur les lois de la République. Et puis, il y a une manière d'être, une culture qui n'est pas la culture habituelle. Mais ça, c'est parfaitement respectable. Mmh. Et le fait qu'en plus, on ait peur en général dans ce pays, on a peur de l'avenir, on a peur de celui qu'on ne connaît pas, on a peur de celui qui est différent, on a peur des étrangers, on a peur des musulmans et on a peur des migrants parce qu'ils viennent bouleverser un ordre social fragile et parce qu'en plus, un certain nombre sont de culture ou de religion musulmane. Donc tout ça fait accroître le sentiment de peur et de méfiance à l'égard des musulmans, à l'égard de l'islam, dont se sert Marine Le Pen quand elle parle de laïcité, c'est anti-musulman, anti-islam. Et c'est pourquoi il faut être à la fois très ferme contre les dérives, mais ne pas tout mélanger et ne pas dire que les musulmans de France ne sont pas des citoyens comme les autres. Moi, je les connais, je les rencontre. Ils demandent à vivre en paix et à pratiquer leur religion en paix. Il faut reconnaître ce fait-là aussi.
Et justement, on a parlé des rapports entre laïcité et dérive communautariste, mais concrètement, indépendamment de la polémique, est-ce que vous sentez, vous, qu'il y a une dérive communautariste, je veux dire, à la fois chez les musulmans, mais aussi peut-être chez certains catholiques ? Où est-ce que vous placez le curseur actuellement ? Vous êtes inquiet ou pas sur
ce phénomène ? Alors, il y a des pressions communautaristes depuis déjà pas mal d'années. Et je pense qu'on s'est, on collectivement, trop reposé sur la laïcité comme un acquis. Et le grand mérite des débats actuels, c'est que ça oblige à redire les choses, à préciser les choses, tout en se rappelant que c'est pas la laïcité qui va régler les problèmes de ségrégation, de discrimination, de ghetto, etc. Donc, est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'hier? Probablement, mais c'est là où nous demandons aux chercheurs de nous éclairer. Et puis, dans ces pressions communautaristes, et là, on rentre dans notre travail, qu'est-ce qui est attentatoire à la liberté? Quand on oblige, par exemple, une femme à porter un voile qui ne veut pas le porter, c'est attentatoire à la liberté. Donc, notre travail à nous, c'est de voir quand est-ce que on va contre la liberté ou contre la neutralité. Je crois qu'il y a des, au-delà des pressions communautaristes, il y a une affirmation plus forte du fait religieux, notamment musulman, mais aussi parfois évangélique et parfois catholique sur certains débats, une affirmation plus forte du fait religieux et des tensions, parce que notre société va mal autour du fait religieux. Une affirmation du fait religieux qui, dans une époque plus tranquille, plus heureuse, ne poserait pas trop de problèmes, là on se crispe. Exemple, les crèches de Noël dans les mairies. Ça fait des siècles que ça dure, ça devient brusquement un enjeu de débat national, comme si la laïcité était principalement menacée par des crèches dans les mairies.
Qu'est-ce que vous répondez dans ce cas concret, qu'est-ce que vous répondez ?
Nous répondons que d'abord Aristide Briand, le rapporteur, l'auteur principal de la loi de 1905, avait vu beaucoup de problèmes, dont celui-là, parce que ce qui est défendu par la loi de 1905, pour l'avenir, on ne va pas casser les signes religieux du passé, qui font partie de notre culture, de notre patrimoine. Pour l'avenir, on ne doit pas mettre dans l'espace public des signes ou des effigies à caractère religieux. Mais on peut faire des expositions. Et Briand avait dit ça ne va pas être simple. Qu'est-ce qui est une exposition? Qu'est-ce qui est un signe religieux? Et il disait, avec un peu de bon sens et de tolérance, on devrait pouvoir s'en sortir. Manque de chance, on manque de bon sens et de tolérance. Nous, notre position à l'Observatoire consiste à dire il faut regarder au cas par cas. Par exemple, dans la région dont j'ai été longtemps l'élu, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou en Languedoc, les crèches sont manifestement quelque chose de profondément culturel. Vous avez un petit endroit où il y a la nativité, et un grand endroit où vous avez les santons de Provence et les santons du village. Il nous semble là, mais c'est au juge d'apprécier, qu'on peut considérer une pratique culturelle. Par contre, là où il n'y a aucune pratique culturelle, où on dit, comme dans la ville de Béziers, ça va être formidable parce que le petit Jésus va pouvoir dormir au chaud, il me semble que là, on ne peut pas contester que c'est un caractère religieux.
Vous parliez de peur en France. Il n'y a pas que la France. En Allemagne, par exemple, il y a également un renversement de l'opinion publique majeure, au-delà même des incidents qui se sont produits. Comment est-ce que vous voyez ça?
C'est vrai qu'en Allemagne, il y a une peur des étrangers, des immigrés, je dirais, comme chez nous, bien entendu. Il y a des formes de racisme peut-être encore plus virulentes que chez nous. Il y a des agressions, par exemple, contre les foyers de travailleurs immigrés. Et il y a une intégration qui ne marche pas très bien. Mais la dominante, c'est pas directement une question d'affirmation du religieux. C'est une peur justifiée par certains excès scandaleux devant des gens qui ne se comportent pas bien dans le pays où ils sont accueillis. C'est plus la peur de l'étranger, alimentée parfois par des phénomènes réels, que la question de la religion, me semble-t-il.
Malgré tout, est-ce que vous trouvez que c'est assez rassurant le fait que Pegida, ce mouvement anti-islam, au sens large, est très peu, relativement peu mobilisé lors de la journée d'hier, où il pensait vraiment avoir beaucoup plus de monde, que ce soit à Calais et d'autres pays d'Europe?
Oui, c'est rassurant. Moi, je craignais, comme beaucoup d'observateurs, que ce soit beaucoup plus large. Malheureusement, je pense que la tendance de fond restera, avec une montée d'ailleurs de l'extrême droite populiste, au-delà même de la question des étrangers et la question des musulmans, une dominante de la vie politique européenne. À quoi là encore la réponse? Et c'est toujours Jean-Louis Bianco qui parle et pas l'Observatoire de la laïcité. Il nous manque un vrai projet européen. Qu'est-ce que nous voulons faire de l'Europe? Comment redonner espoir dans l'Europe? Tout ce que disent les Anglais n'est pas stupide. Il faut diminuer tout ce qui est la manie réglementaire de Bruxelles. Il faut donner plus d'espace à la subsidiarité. Il faut dire pourquoi on veut faire l'Europe. Il faut qu'on dise quelles avancées on peut faire. Donc tant qu'on n'aura pas un projet européen ou des projets européens dans le débat public, alors l'Europe sera un point faible et donc un point dans lequel se développeront des populismes d'extrême droite.
Alors Jean-Louis Bianco, nous allons sur les antennes de RFI et de TV5 Monde faire un point de l'actualité. Nous ferons après un tour du monde, voir comment les autres pays sur les différents continents règlent cette question du religieux dans leur espace public. Avant cela, nous faisons le point de l'actualité avant de nous retrouver dans exactement 2 minutes. Retour international, vous êtes sur les antennes de TV5 Monde et de RFI, émission réalisée avec le quotidien Le Monde, nous recevrons Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité. Nous vous avons posé un certain nombre de questions sur cette définition de la laïcité. Il y a un autre mot qui existe, sans doute aussi intraduisible en français, c'est laïcar. Est-ce qu'on peut être, au fond, un peu ayatollah, passez-moi la formule, de cette laïcité, en faire trop?
Je crois que, même si c'est une expression qu'il arrive aux uns aux autres d'employer, il faut éviter de se crisper. Je crois qu'il faut respecter, elle est considérée par un certain nombre d'entre eux, même si j'en connais, qui se revendiquent laïcar comme stigmatisante. Donc, parlons des conceptions. Mm-hmm. J'ai dit ma conception de la laïcité, que je pense en fait largement partagée. Je conçois qu'il y ait une autre conception de la laïcité que je ne partage pas, qui est une laïcité anticléricale, antireligieuse. C'est le vieux débat de 1905 entre Briand d'un côté et Combes. Il y a aussi une tendance nouvelle qui consiste à vouloir étendre le domaine de la laïcité. Aujourd'hui, c'est la neutralité des agents publics, la neutralité des services publics. Et il y a des propositions de loi, de gauche et de droite, qui sont sur la table de l'Assemblée nationale et du Sénat pour étendre, et étendre sous forme d'interdiction. Et ça cristallise sur le foulard. Interdiction du foulard à l'université, interdiction du foulard dans l'entreprise, interdiction du foulard pour les mamans accompagnatrices, etc., etc. Et là, donc,
pour vous, ce sont les usagers, loin, en fait.
Ce sont les usagers des services publics qui seraient obligés de respecter une forme de neutralité. Personnellement, je considère que ce serait extrêmement dangereux parce que ça aboutit à une sorte de neutralisation de l'espace public qui est la négation des libertés. Mais c'est, je crois, cette conception-là qui commence à se développer aujourd'hui, qui mérite d'être discutée publiquement. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Je pense que ce serait dangereux.
Pourquoi ce serait dangereux? Est-ce que ça pourrait conduire justement à radicaliser d'une certaine façon ou à amplifier une certaine dérive?
Pas seulement. Ce serait dangereux parce que ça, tout ce qui réduit les libertés est dangereux. Autant il faut faire respecter les limites à la liberté. Autant la Déclaration des droits de l'homme du citoyen place sur le même plan la liberté d'expression, la liberté religieuse, la liberté syndicale, la liberté politique. Et dans cette période en plus, on a des problèmes sécuritaires. Si on restreint les libertés, on va vouloir normaliser. Alors je caricature bien entendu, mais si on interdit partout, on va avoir ce que souhaite Nadine Morano, des blancs, blonds, gaulois, chrétiens, comme seule norme de l'espace public. Et ça, c'est très dangereux. En plus, bien entendu, ça peut alimenter la radicalisation. Mais moi, je me place plutôt sur le terrain des libertés que sur le seul terrain de l'amalgame qui pourrait être fait.
Mais peut-être que ceux qui souhaitent défendre des principes laïcs plus durs comme cela sont ceux qui observent qu'à l'école, par exemple, il y a un renouveau du rigorisme chez les élèves, même les jeunes, qui contestent, par exemple, l'enseignement de la théorie de l'évolution de Darwin. Il y a des problèmes au moment de l'enseignement sur la Shoah, les cours d'éducation sexuelle, etc. On voit une sorte de religiosité, de phénomène religiosité qui inquiète.
Alors, on voit un phénomène de religiosité qui inquiète, vous avez raison. Ma réponse est celle de Bernard Cazeneuve. Il ne faut pas durcir.
Le ministre de l'Intérieur français.
Le ministre de l'Intérieur, oui, français. Il ne faut pas durcir, il faut appliquer. Et ne pas accepter des dérives. Alors, il y a deux sortes de choses. Il y a ce que vous disiez, refus de l'enseignement de Darwin, la théorie du genre, ne pas parler de la Shoah, qui sont des cas relativement marginaux, mais sur lesquels il faut être absolument impitoyable et expliquer d'abord et sanctionner ensuite ce que fait le ministère de l'Éducation nationale. Et puis, il y a ce que révélait notamment l'enquête qui a été publiée par le Nouvel Observateur, le sentiment qui est inquiétant. Alors, c'est vrai que ce sont des gens de milieux défavorisés, dans les quartiers nord de Marseille, avec une forte proportion de musulmans. Mais enfin, ce que disent beaucoup des collégiens qui sont interrogés, c'est « je mets la loi religieuse au-dessus de la loi civile ». Et ça, c'est la négation même de la laïcité. C'est pour ça qu'il est extrêmement important que l'éducation nationale fournisse un enseignement laïque du fait religieux, en disant « voilà ce qui est scientifiquement prouvé ». Voilà ce que sont les prescriptions de telle religion, voilà ce que sont les préjugés. Et bien expliquer qu'on peut avoir chez soi la conviction qu'on veut, les parents la conviction qu'on veut, mais qu'à l'école et dans la République, c'est la loi de la République qui prime. Donc il y a un énorme travail à faire et moi je me réjouis qu'enfin on s'y attaque. Régis Debray l'avait demandé il y a déjà plus de 10 ans.
Il y a eu un président, Nicolas Sarkozy, qui a expliqué qu'il fallait mettre le curé au-dessus de l'instituteur.
C'est quelque chose de profondément dangereux. C'est vouloir introduire du religieux dans l'espace public. Moi je mets... l'instituteur au-dessus de tout, parce que c'est lui qui est le garant de la loi républicaine.
Mais alors, l'instituteur, il faut aussi qu'il...
Mais le curé est utile, mais le pasteur est utile, dès lors qu'il prêche l'entente. Mais le rabbin est utile, la spiritualité. Mais il y a toujours eu deux aspects dans la religion. Un aspect qui conduit à des guerres de religion, un aspect emprise du pouvoir des religions sur l'État, et un aspect spiritualité qui est une contribution essentielle à l'humanité. Il faut regarder les choses de manière objective.
Et du coup, les enseignants aujourd'hui, parce qu'il y a eu une série de mesures depuis un an dans l'école, est-ce que les enseignants, ils vous semblent suffisamment formés maintenant pour aborder peut-être différemment l'histoire des faits religieux?
Alors, c'est une question difficile. Moi, j'ai participé personnellement, et l'Observatoire avec moi, à des formations de formateurs depuis 2 ans avec le ministère de l'Éducation nationale, et spécifiquement plusieurs membres de l'Observatoire aussi, d'ailleurs, sur l'enseignement laïque des faits religieux. Je crois que c'est un démarrage. Nous aurons d'ailleurs, nous, Observatoire, c'est notre travail, à évaluer à la fin de l'année comment ça marche. Le principe est bon. Je pense qu'il y a un besoin à la fois de connaissances philosophiques, géographiques, historiques, qu'ont en partie les profs, les enseignants, mais pas tout. Et surtout, la grande difficulté, c'est le travail pédagogique. Comment je fais face à quelqu'un qui me dit « mais non, la Shoah, ça n'a pas existé », ou face à quelqu'un qui me dit « la loi d'Allah est plus forte que la loi républicaine ». Donc c'est plus une question très délicate de pédagogie qu'une question de connaissance. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on progresse.
On reste dans l'école. Un certain nombre d'élèves ont refusé la minute de silence après les attentats de Charlie. Ils ont le droit au nom de leur liberté de penser, ou est-ce qu'au contraire, c'est inacceptable ?
C'est grave. Et autant je me méfie des gens qui nous disent « il y a beaucoup plus de cas que vous ne le croyez », autant... Je pense que les 300 cas recensés qui sont montés au ministère de l'Éducation nationale sont beaucoup moins que la réalité. Donc c'est une réalité préoccupante, même si c'est 1000 cas sur je ne sais pas combien milliers de classes. Et comme l'a dit la ministre Najat Vallaud-Belkacem, rien de ce genre ne doit être laissé sans réponse.
Quelle est la réponse de l'Observatoire ?
L'Observatoire dit que c'est à l'Éducation nationale de regarder, de comprendre, de discuter et éventuellement de sanctionner. Moi, j'ai publié un petit livre, comme Jean-Louis Bianco, je précise, ce n'est pas une position de l'Observatoire, qui s'appelle « L'après Charlie », où je suis parti avec 2 autres auteurs de ce que disent les jeunes, qui refusent la minute de silence, qui refusent aussi de dire « je suis Charlie ». Et en gros, la réponse que je leur fais, suivant que je les tutoie, je les vouvoie, vous avez le droit de ne pas vouloir dire « je suis Charlie ». Mais pourquoi moi je le dis ? Pourquoi nous le disons ? Parce que nous défendons la liberté d'expression face au terrorisme. Et deuxième point, ce qu'il faut leur expliquer, c'est que cette liberté n'est pas absolue. Il ne faut pas diffamer. Il ne faut pas faire du négationnisme, nier les camps de concentration, la Shoah. Il ne faut pas inciter, faire l'apologie du terrorisme. Il ne faut pas inciter à la haine. Et des journaux comme Charlie Hebdo sont parfois condamnés, ce qui montre bien que la liberté d'expression n'est pas sans limite. Mais c'est un bien précieux que nous devons tous défendre.
On vous entend sur un certain nombre de cas concrets, avec une réponse, intellectuelle. Certains pourraient dire qu'au fond, l'Observatoire, ou que vous-même faites un peu d'angélisme par rapport à des cas concrets et inacceptables.
Mais pas du tout. C'est juste le contraire. Je viens de vous dire que nous légitimons le fait pour des gens de pouvoir dire non dans nos guides de manière très précise. C'est le contraire de l'angélisme.
On a beaucoup parlé, après les attentats de janvier plutôt, de laïcité, bien sûr, et puis aussi d'organisation de l'islam en France, en faire un islam de France. Vous trouvez qu'il y a des réponses qui commencent à être un peu plus concrètes, ou on est toujours un petit peu dans le domaine de l'ingérence de pays étrangers, extérieurs?
C'est un sujet difficile, déjà du point de vue de la laïcité, puisque en bonne théorie laïque, l'État ne doit pas se mêler de l'organisation des religions. Et en même temps, on sent bien la nécessité de s'organiser. Moi, je pense que toute révérence étant apportée au grand principe de laïcité, il y a besoin d'une organisation qui dépend bien sûr d'abord des musulmans de France, mais moi, je ne trouve pas choquant que les ministres de l'Intérieur successifs, de gauche et de droite, aient essayé de faire quelque chose. Donc on progresse. On progresse de manière assez significative par le fait que Bernard Cazeneuve a réussi à élargir un peu, en faisant une sorte de consultation citoyenne, trouvant des gens, des hommes et des femmes nouveaux venant de la société civile pour exprimer cette vision que l'on souhaite tous d'un islam de France et que souhaitent beaucoup de musulmans de France.
Mais il faut un consistoire ?
Je ne crois pas. On a le Conseil français du culte musulman, qui certes n'est pas parfait, mais qui existe et qui prend des positions très courageuses. Il a pris, à la fin du mois de janvier, une déclaration dans laquelle il a dit « Nous sommes profondément attachés aux valeurs de la République. Aucune loi religieuse ne doit aller contre les valeurs de la République. Nous sommes profondément attachés à la laïcité. » Et c'est un organisme qui représente beaucoup de mosquées et beaucoup de fédérations de mosquées.
Vous êtes en contact
on progresse,
avec cet organisme ?
Bien sûr, on progresse, comme avec l'Église catholique, comme avec les protestants. On progresse dans l'affirmation qui est nécessaire, qui n'avait que trop tardé. Et puis, ce qu'ils ont dit qui me paraît intéressant, encore une fois, je sors un peu de mon rôle, c'est l'idée qu'ils veulent labelliser les imams. Et dedans, ils veulent faire une formation laïque et civique. Et moi, j'ai dit au président, nous sommes à votre disposition, parti religieux, ce n'est pas notre affaire, pour la formation laïque et civique. Nous faisons énormément de formations pour les enseignants, pour les personnels de la politique de la ville. Dans des villes, nous avons validé des chartes de la laïcité, de la ville de Paris, de la caisse d'allocation familiale. Donc notre travail est partout d'aider les gens, quels qu'ils soient, à affirmer les principes de laïcité, à les faire vivre.
Et vous avez une réponse favorable du président ?
Sur le principe, oui, mais enfin, c'est son affaire. Hein. Nous sommes à disposition, là comme ailleurs.
Vous parlez formation, formation à la laïcité ou également formation carrément religieuse.
Ah non, formation religieuse, c'est pas notre affaire. Formation à la laïcité.
C'est pas votre affaire ?
Non. Non, parce que c'est les religions.
Le fait que des imams puissent prêcher l'islam d'une façon jugée.
Non, notre affaire, c'est de faire sa juste place à la laïcité. L'affaire du ministre de l'Intérieur, que je soutiens d'ailleurs, c'est de dire chaque fois qu'il y a des prêches qui portent atteinte aux lois, qui incitent au terrorisme, qui sont indulgents avec le terrorisme, ces gens doivent être condamnés et les mosquées fermées. Mais ça, c'est une question d'ordre public, de respect de la loi.
Mais est-ce que vous n'avez pas besoin, vous, qu'il y ait une évolution au cœur de l'islam façon d'interpréter...
C'est la France qui a besoin, c'est les musulmans de France qui en ont besoin, mais ce n'est pas à l'Observatoire ni au gouvernement de le décréter. Il faut le souhaiter.
Mais
c'est leur affaire.
Naturellement, on écoute vos exemples. À chaque fois, les exemples que vous prenez ramènent à une seule religion, l'islam. Je vous ai posé la question tout à l'heure de savoir quelle était la difficulté relationnelle. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas plus précisément aborder cette question ?
Il n'y a pas de difficulté relationnelle. Chacun est libre de critiquer l'islam comme les autres religions. C'est d'ailleurs, pour moi, le complément de la liberté de religion. On a la liberté de religion, on a la liberté de critiquer la religion. Il n'y a pas de délit de blasphème. En France. Et ça peut choquer un certain nombre de gens, catholiques, musulmans ou autres. Donc cette liberté, elle est absolue. Là aussi, la liberté de religion absolue, jusqu'au point où elle ne gêne pas la liberté d'autrui, jusqu'au point où elle n'appelle pas à la haine. Donc nous avons ce dialogue. L'Observatoire auditionne chaque année, fait un gros rapport. Donc je vous recommande la lecture, si vous avez le temps, qui fait 200-250 pages, mais qui est aussi librement téléchargeable. On auditionne tous les cultes, les principales obédiences maçonniques et les grandes associations d'éducation populaire. Et nous disent... Voilà les problèmes qu'on a, voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas. Et nous, on dit à partir de là, qu'est-ce qu'on recommande ?
Si on essaie d'élargir un peu un tour du monde, cette émission, je le rappelle, est diffusée internationalement, comment est-ce que ça se règle ailleurs, dans d'autres pays ? Par exemple, aux États-Unis, est-ce que la laïcité existe ? Est-ce qu'en Turquie ? Est-ce qu'en Belgique, on retrouve cette question ? Elle est très franco-française.
Elle est très franco-française. Mais avant de répondre plus précisément, je voulais vous dire, parce que ça me paraît important, que naturellement, nous constatons... Nous, l'Observatoire, nous, les observateurs et le ministère des Affaires étrangères, que la laïcité française est souvent très mal perçue. À l'étranger, elle est perçue comme une atteinte à la liberté de religion, voire dans certains cas comme une atteinte spécifiquement à l'islam. Et donc on a deux fronts, si j'ose dire, sur le plan idéologique. Le front anglo-saxon, États-Unis anglais, pour lequel toute mesure de type préservation de la neutralité pourrait être une atteinte à la religion. Et le ministère des Affaires étrangères bataille chaque année contre les rapports du Congrès, des rapports du département d'État. Et puis, une partie du monde arabo-musulman, où c'est en partie instrumentalisé, dans les blocages d'un islam plus progressiste, dans les blocages d'évolutions comme celles qui se produisent en Tunisie, dans des blocages sur de bonnes relations avec la France. Et donc, il nous appartient d'expliquer ce que c'est, et que ça n'est pas anti-religieux. Pour répondre à votre question, la laïcité française, telle qu'elle est une originalité qui tient à l'histoire. Des pays, assez nombreux, il y en a 7 ou 8 à ma connaissance, mettent la laïcité dans leur constitution. Mais pour autant... C'est pas forcément la même pratique. Alors, les Belges, la laïcité, c'est une conviction.
C'est ultra minoritaire.
Oui, c'est ultra minoritaire. C'est une conviction. C'est un choix. Mais il y a beaucoup de pays où, d'une certaine manière, les affaires religieuses sont séparées des affaires de l'État. C'est la sécularisation, le sécularisme. Pour prendre un exemple, l'Écosse. Il n'y a plus de religion d'État en Écosse. Alors qu'il y a encore une religion d'État, en l'occurrence, l'anglicanisme, même si c'est une forme un peu théorique en Angleterre. Donc, la séparation des églises et de l'État est quelque chose qui est à l'œuvre. Dans des proportions inégales, dans beaucoup d'endroits. Mais la laïcité au sens français, pas bien, mais je crois qu'il y a le cas du Mexique, dont on me dit que sur le papier, il pourrait ressembler à la France, mais je ne sais pas la pratique.
Parmi les pays que l'on pourrait citer, la Turquie, qui a revendiqué la laïcité, mais on voit bien qu'il y a un retour du religieux extrêmement fort, extrêmement spectaculaire dans l'appareil d'État.
Vous avez raison, la Turquie a été un des grands piliers de la revendication de la laïcité, y compris par rapport aux droits des femmes. On voit hélas qu'aujourd'hui, il y a un énorme recul.
Bien sûr.
Mais la Turquie se proclame laïque, mais dans la Turquie, l'État contrôle la religion, alors que chez nous, l'État ne contrôle pas la religion, si ce n'est les dérives de la religion.
États-Unis, in God we trust.
Et prêter serment sur la Bible.
Ah oui.
Cela dit, il y a une certaine séparation. Ça paraît paradoxal. Il y a quelque chose qui est incroyablement religieux, et en même temps, les affaires religieuses n'interfèrent pas forcément dans les décisions politiques. Ils ne s'expriment pas au caucus de l'Iowa, les religieux américains.
Est-ce que vous faites le lien, Jean-Louis Bianco, entre les crispations identitaires d'un côté et cet énorme accroissement des inégalités dans le monde, en France d'ailleurs, mais comme dans le reste du monde, entre une minorité qui possède la plupart des richesses du monde?
Oui, tout à fait. Et c'est vrai aussi pour les problèmes franco-français, mais là on parlait des problèmes du monde. C'est pas la laïcité qui va régler les problèmes d'inégalité, d'injustice, de ségrégation, de discrimination en France, puisqu'on est en France comme dans le monde. Et c'est à ces problèmes-là qu'il faut porter remède, parce que sinon on a des crispations identitaires, pas forcément seulement religieuses. Jaurès disait en 1904, parlant de la France, mais je pense qu'on peut avoir ce genre de principe à l'échelle du monde, la République doit être laïque et sociale. Elle restera laïque si elle sait rester sociale. Nous avons besoin d'avancer sur la question sociale, d'avancer sur les politiques publiques, d'avancer sur la réduction des inégalités pour que les gens retrouvent confiance dans les institutions, dans leur pays, dans les constructions internationales. Et c'est la clé d'une identité qui ne soit pas agressive, mais qui soit assumée avec la fierté de ce qu'on est, avec la connaissance de ce que notre pays a fait de bien ou de mal dans l'histoire. Mais s'il n'y a pas de lutte contre les inégalités, alors on a du mal à admettre une identité française, européenne, citoyenne dans le monde.
Et c'est pas un hasard si le débat est ravivé à quelques mois des échéances électorales en France.
Ce n'est pas un hasard et ça renvoie à un problème de fond qui est grave, qui est que nous manquons cruellement d'un projet pour la France, d'un projet qui dit ce qu'est la France, qui traite cette fameuse question des racines. Bien sûr qu'on a des racines chrétiennes, mais pas que. Des racines grecques, avec la démocratie, des racines de Rome, avec le droit, des racines musulmanes et arabes, avec tout ce qu'ils nous ont apporté au Moyen-Âge, des racines des francs-maçons, des libres-penseurs, qui ont préparé la Révolution des Lumières. Donc il faut dire ça. Et puis des apports historiques, c'est quand même pas un hasard. Si la Grande Mosquée de Paris a été faite en 1924, entièrement ou presque entièrement financée sur fonds publics, en contradiction absolue avec le principe de laïcité, l'État ne finance pas les cultes de 1905, pour remercier les musulmans qui s'étaient battus pour la France dans la Première Guerre mondiale. Il faut savoir ça aussi.
On parle de la France. Regardons du côté des États-Unis avec la campagne de Trump. Aurait-on pu imaginer un homme politique au XXIe siècle dire qu'en matière de migration, il fallait stopper les musulmans?
C'est un peu ce que dit Le Pen, hein, quand même, en France.
C'est pas très loin. C'est terrible. C'est terrible parce qu'il n'y a plus de limitation à la parole, sur des discours semeurs de haine. Mais pour moi, la vraie réponse, y compris en France, ce n'est pas de disqualifier ou de critiquer les discours, c'est de répondre aux inquiétudes et aux angoisses des gens. C'est de trouver des solutions qui ne sont pas faciles, sinon ça se saurait, pour qu'il y ait moins d'inégalités, moins de discrimination, moins de ghettos. C'est ça la vraie réponse au Front National.
Mais il va falloir anticiper sur la réaction face à l'islamophobie.
Oui, moi c'est un mot que j'emploie pas pour des raisons de pas se mettre sur une querelle de mots. J'ai parfaitement entendu ce qu'a dit Elisabeth Banater. Elle a raison, évidemment, sur un point. C'est le fait qu'on doit pouvoir dire ce qu'on veut, y compris de l'islam. Bon, sans se faire traiter de... Cela dit, se dire « je suis islamophobe, je suis pas islamophobe », moi je dis autre chose. On a un libre examen des religions, dont l'islam, et on a, hélas, une tragique comptabilité des actes anti-musulmans, des actes antisémites, des actes anti-chrétiens. On va pas faire une compétition de victimes, mais tous ces actes sont condamnables, tous ces actes doivent être condamnés et tous leurs auteurs doivent être recherchés. Je préfère me placer sur ce terrain-là, des faits, de la réalité, liberté de critique, dans les limites, encore une fois, qui s'appliquent à tout le monde, et dénonciation et combat contre tout ce qui est attenté à des gens, à des concitoyens français à cause de leurs convictions religieuses, musulmanes, juives ou chrétiennes.
Les réseaux sociaux en sont pleins des attaques contre l'islam en tant que tel. Il y a des organisations, celles qui défilaient aux côtés de Pegida sont...
Vous avez raison, c'est un très gros problème qui est avec cet instrument de liberté extraordinaire que sont en principe les réseaux sociaux, comment on combat les dérives. Le gouvernement, là on est sur le terrorisme, ce qui est un peu différent... Il est dans un combat qui passe par la fermeture des sites. Il est aussi, ce qui me paraît important, par l'élaboration d'un contre-discours. Il y a notamment un site qui s'appelle ontemanipule.fr ou .com, je ne sais plus, qui explique aux jeunes pourquoi c'est contre les théories du complot. Moi, je crois personnellement que ça ne peut pas être des institutions. Si on veut parler aux jeunes qui sont dans une dérive fondamentaliste, puis parfois plus, il faut que ce soit d'autres jeunes, il faut que ce soit des associations, il faut que ce soit les mouvements d'éducation populaire. Parce que si vous avez un discours qui est excellent, mais avec marqué bleu, blanc, rouge, République française, vous n'êtes pas audible. Cela dit, ce discours est utile, fermer des sites est utile.
Voir les églises elles-mêmes, d'ailleurs.
Bien sûr.
Les communautés religieuses.
Bien sûr. Il faut aussi que s'expriment fortement ce qu'elles font de plus en plus, mais qu'elles n'ont peut-être pas fait assez avant.
Il y a un autre modèle d'organisation de la société, c'était en gros le modèle de la Grande-Bretagne, où les très communautaristes, où chacun peut dire ce qu'il veut dans les prêches, etc. Ce modèle, pour vous, est en échec?
Je suis pas anglais, c'est aux Anglais de le dire, c'est vraiment pas notre culture, c'est vraiment pas ce que moi je crois souhaitable pour un pays comme la France, mais je veux dire, chaque pays a son histoire et ses contraintes.
La France est un peu contaminée par ça.
Oui et non, elle n'est pas contaminée dans la mesure où, heureusement, on ferme des mosquées et on interdit des imams. Ce que je crois, c'est que les Anglais, ils l'ont reconnu d'ailleurs, sont allés trop loin au nom d'une expression extraordinaire de la liberté et de tolérance en ayant des prêches il y a une dizaine d'années catastrophiques. Mais ils ont eux-mêmes resserré les choses. Je crois que dans le combat contre des paroles pour le terrorisme ou le terrorisme, nous sommes en fait sur des positions assez voisines.
Vous êtes un homme politique, vous avez participé à des campagnes présidentielles. Est-ce que cette question religieuse va s'inviter dans les prochaines échéances ?
Oui, bien sûr. La question religieuse, tout ce dont on parlait, la question de la laïcité, la question de l'identité, tout ça est présent et sera présent dans le débat public, sachant que, comme chacun le sait, la question première reste pour les Français, comment combattre le chômage et quel avenir pour mes enfants ?
C'est pas la déchéance, la question première ?
Ça, c'est dans notre système politico-médiatique.
On décrypte la déchéance de nationalité pour les auteurs d'actes terroristes. Voilà. Enfin, les députés vont se pencher sur la question cette semaine.
Qu'est-ce que vous pensez justement de ce projet ?
Alors, je pense d'abord, comme vous sembliez ici dans notre question, que c'est tout typiquement franco-français. C'est une question de principe qui n'est pas sans importance. Les vraies questions, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de quoi a-t-on besoin pour mieux assurer la sécurité de nos compatriotes dans une guerre que nous fait le terrorisme ? Et comment on garantit des libertés par le juge et par le Parlement. C'est ça le seul vrai débat. La déchéance de nationalité, moi j'aimerais bien qu'on arrive à trouver une solution qui peut s'appeler l'indignité, ce que proposait Jean-Pierre Mignard, parce que ça paraît normal à beaucoup de Français que quand on commet les actes de terrorisme contre son pays, qu'on soit binational ou pas, on perde la nationalité. C'est quelque chose qu'il faut entendre et comprendre. Mais ne créons pas une différence supplémentaire. Faisons la même indignité nationale pour tout le monde. Et puis repassons au vrai sujet. De quoi a-t-on besoin en termes de sécurité et comment on garantit les libertés ?
En gros, vous considérez que ce projet sur la déchéance de nationalité ne risque que d'amplifier justement les crispations communautaires et le repli éventuellement.
Pas seulement, parce qu'il y a vrai des débats de fond politiques et philosophiques qui sont éminemment respectables. Seulement, on se focalise sur ce point-là, alors que ce n'est pas pour moi le point principal.
C'est encore les échéances électorales qui...
Pas seulement, je crois qu'on s'est engagé dans un débat comme on les aime bien en France, qui sont des débats virulents, de mots, de principes. Un beau débat par ailleurs, respectable, mais encore une fois... Ce qui compte, c'est comment on protège les Français, comment on garantit les libertés.
Vous avez employé le mot « guerre » il y a un instant. Est-ce qu'il y a un retour des guerres de religion actuellement dans le monde ?
Sans doute. C'est difficile à dire. Moi, j'ai pas de... Il y a un organisme très intéressant qui s'appelle Pharos, l'Observatoire des religions, qui est d'ailleurs animé par un ami, Pierre Morel, qui donne des données plus rigoureuses que je ne saurais le dire. En tout cas, il y a des tensions un peu partout dans le monde autour des religions.
Surtout entre sunnites et chiites, d'ailleurs.
Oui, pas que. Il y a aussi en Asie, parfois, des bouddhistes dont l'image n'est pas de faire des guerres de religion, des choses très choquantes à l'égard des musulmans. Raison de plus, encore une fois, pour bien dire que notre laïcité en France doit nous préserver, parlez-en donc aux protestants, des guerres de religion en reconnaissant la liberté de culte pour chacun.
Quand vous voyez qu'en Allemagne, l'Église se mêle de dire qu'il y a suffisamment de migrants arrivés, etc., vous trouvez qu'elle est dans son rôle ?
C'est un sujet difficile. La France aussi le fait. Moi, je ne conteste pas le droit aux Églises de dire ce qu'elles pensent sur les grands sujets de société. Ça fait partie des gens qui ont un message, une spiritualité, une vision du monde à dire. Ce que je conteste, et ça arrive aussi en France et parfois dans l'Église catholique, c'est quand une fois que la loi a été votée, ils la contestent. Après le mariage pour tous, il y a un certain nombre d'autorités religieuses, d'ailleurs aussi des musulmans, qui ont dit on ne veut pas de cette loi. Elle a été votée. Elle devient la loi de la République. Quand on a eu la loi interdisant les signes religieux à l'école, le Conseil français du culte musulman a fait une campagne forte contre. Une fois que la loi a été votée, il a dit maintenant elle s'applique. Moi j'aimerais que toutes les églises respectent la loi. Elles ont parfaitement le droit de s'exprimer en débat public. C'est un élément important. Mais une fois que la loi est votée, c'est la loi. On peut ne pas l'aimer, mais c'est la loi que nous devons appliquer.
Est-ce que votre travail, celui de l'Observatoire, est plus difficile après les vagues d'attentats, notamment celles qui viennent de se produire en France ?
Il ne serait pas plus difficile si on arrivait à avoir, comme j'ai essayé de le faire devant vous, de la clarté dans les idées, de la précision dans l'expression, des citations exactes et pas des procès d'intention. Ce qui gêne le travail de l'Observatoire, c'est des gens qui veulent purement et simplement, avec des attaques personnelles, souvent injurieuses, nous déstabiliser. Mais je rassure... tous les défenseurs de la laïcité, les croyants et les non-croyants, nous ne nous laisserons pas déstabiliser.
Merci Jean-Luc Bianco d'avoir accepté notre invitation, d'être venu parler et répondre aussi sur la polémique autour de l'Observatoire de la laïcité. Merci d'avoir été avec
nous. Merci à vous.
Et nous vous retrouvons sur les antennes de RFI de TV5 Monde, toujours en liaison avec le quotidien Le Monde, la semaine prochaine pour une autre émission. Excellente suite de programmes sur les différentes antennes.